Le film d'horreur. Le film d'horreur cherche à provoquer la peur du spectateur, à réveiller des angoisses, soit par la terreur née de la brutalité à l'état pur, comme dans Vendredi 13, sorti en 1980, ou Les Dents de la Mer en 1975, soit par l'inquiétude née de l'incompréhension face à un comportement humain parfaitement monstrueux. C'est le cas d'un film comme Le Silence des Agneaux, sorti en 1991. Le degré de peur et les formes prises pour l'inspirer servent à diviser le genre en plusieurs catégories. Comme par exemple le film gore où l'on voit beaucoup de sang et de corps déchiquetés, comme dans Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974, ou le film d'épouvante, où là, la crainte est suggérée plus que montrée réellement, comme dans Psychose d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960. Le film d'horreur peut également reposer sur la terreur solidement ancrée des monstres et des créatures horrifiantes sorties des contes ou des répulsions personnelles que sont les vampires, les loups-garous, les araignées et les serpents en tout genre. Impossible de citer tous les opus d'une production pléthorique, de l'œuvre inspirée au navet risible à force de grotesque.
N'oubliez pas, un peu de sang neuf. Inspiré comme les autres films de vampires, du roman Dracula de Bram Stoker paru en 1897, le Nosferatu de F. W. Murnau, qui sort au cinéma en 1922, met en scène le comte Orlok, vampire de Transylvanie, une province de Roumanie. Séduit par la photo d'une jeune femme, Hélène, Nosferatu Orlok la vide de son sang jusqu'au moment où il périt, consumé par la lumière du jour. Le film, muet, connaît un remake en 1979 par le réalisateur Werner Herzog, largement inspiré de l'original. Mais il faut attendre le Bram Stoker's Dracula, paru en 1992 de Francis Ford Coppola, pour assister à une adaptation ambitieuse, esthétisante et novatrice du mythe du vampire. En 1994, les siècles vécus par les vampires, leurs proies, leurs amours diverses et variées, sont révélés par le spectaculaire « Entretien avec un vampire » de Neil Jordan, où Tom Cruise, Brad Pitt et Antonio Banderas rivalisent de canines affriolantes.
Le film Catastrophe. Vous n'êtes pas du genre à imaginer le pire? Certains s'en sont chargés pour vous. Le film Catastrophe éprouve la fragilité de l'homme confronté à une nature déchaînée et incontrôlable, ou à des techniques mises en œuvre par des scientifiques peu à même d'en contrôler les résultats, qu'il s'agisse de machines, de virus, de résultats hasardeux, de manipulations biologiques ou de la destruction pure et simple de la planète. Ce dernier thème, riche en effets spéciaux, s'illustre régulièrement dans « Le jour de la fin du monde » en 1980, « Deep Impact » en 1998 et « Le jour d'après » en 2004. Le film catastrophe qui a connu, et de loin, le plus grand succès planétaire, demeure à ce jour « Titanic » de James Cameron qui sort en salle en 1997, avec pour les seuls États-Unis 128 millions d'entrées et dans le monde entier 1,8 milliard de dollars de recettes. Sa durée de 3h14 est elle aussi exceptionnelle.
Le saviez-vous? Les femmes et les enfants d'abord. Non seulement le Titanic de Cameron a obtenu 11 Oscars, mais il a déclenché une véritable vague d'émotions qui a poussé certains spectateurs à le voir plus de 30 fois. L'histoire d'amour qu'il raconte est celle de deux amants séparés par le statut social, figurés par le pont des premières classes et celui des immigrants, parti chercher fortune en Amérique. Des dizaines d'années après le naufrage de 1912, au cours duquel Jack, joué par Leonardo DiCaprio, jeune homme de 19 ans, meurt noyé, Rose, jouée par Kate Winslet, le rejoint enfin. Elle est désormais une vieille dame ridée qui retrouve dans la mort l'éclat de sa jeunesse et son immortel amour. Chef-d'œuvre d'effets spéciaux, de scènes spectaculaires, et de reconstitution soignée. Titanic mêle adroitement les arcanes du film catastrophe et les élans émotionnels du drame sentimental.
Les grands festivals et récompenses. Que serait le cinéma sans ses stars? Les flashs qui crépitent, la chronique des journaux à scandale et surtout sans ses récompenses. Les festivals y pourvoient, à la fois grand-messe médiatique et occasion de découverte ou de confirmation de talent. Pour assister à la débauche de paillettes, au discours de remerciement et aux larmes, pénétrons en smoking et robe longue, comme il se doit, dans le monde de lumière du 7e art à son apogée. Le Festival de Cannes. Voilà sans doute celui dont on entend le plus souvent parler, aussi bien dans le monde du cinéma que dans l'actualité people. Le Festival de Cannes, événement professionnel majeur et fenêtre sur les célébrités pour le grand public, notamment grâce à la célèbre montée des marches, est un rendez-vous très attendu chaque année. Ses débuts ont pourtant été marqués d'un saut tragique. La première édition, prévue pour durer tout le mois de septembre 1939, fut abandonnée avant même son ouverture en raison de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939 et la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni à l'Allemagne le 3 septembre. Après une réouverture sporadique avec un festival en 1946, mais rien en 1948 faute d'argent, le festival reprend son cours à partir de 1949. Il prend place au Palais des Festivals au cours de la seconde quinzaine du mois de mai. Le prix le plus prestigieux en est la Palme d'Or, remise depuis 1955 au meilleur film. Mais le jury, composé de professionnels du cinéma, décerne également un grand prix pour le film le plus novateur, un prix d'interprétation féminine et masculine, un prix du scénario et un prix du jury. Les films français sont assez bien représentés dans le palmarès de la Palme d'Or avec Le salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot en 1953, Le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle en 1956, Orfeu Negro de Marcel Camus en 1959, une aussi longue absence d'Henri Colpi en 1961 qui est ex aequo avec Viridiana de Louise Buñuel, Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy en 1964, Un homme et une femme de Claude Lelouch en 1966 qui est ex aequo avec Ces messieurs dames de Pietro Germi, Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat en 1987, Entre les murs de Laurent Cantet en 2008, La vie d'Adèle de Abdelatif Kechiche en 2013, Dipane de Jacques Audiard en 2015, Titane de Julia Ducournau en 2021, Anatomie d'une chute de Justine Triet en 2023. En 2009, la Palme d'Or est décernée au cinéaste autrichien Michael Haneke pour son film Le Ruban Blanc. Et pour ne pas être chauvin, citons également les excellentes Palmes d'Or italiennes que sont La Dolce Vita de Federico Fellini en 1960 et La Chambre du Fils de Nanni Moretti en 2001, ainsi que le célèbre Taxi Driver de l'américain Martin Scorsese en 1976, Le Trouble Paris-Texas de l'allemand Wim Wenders en 1984, Le fantasmagorique Barton Fink des Américains Joel et Ethan Coen en 1991, Le déjanté Underground du Yougoslave Emir Kusturica en 1995, Le bouleversant Dancer in the Dark de Lars von Trier en 2000, Le vent se lève de Ken Loach en 2006.
N'oubliez pas, Maître de guerre. Apocalypse Now, sorti en 1979 de Francis Ford Coppola, est adapté d'un roman de Joseph Conrad, intitulé « Cœur de ténèbres ». Deux visions de la guerre s'y affrontent. Celle du colonel Kurtz, joué par Marlon Brando, qui, pour gagner plus vite la guerre du Vietnam, est prêt à multiplier tortures et assassinats à la tête de son groupe d'indigènes. Et celle du capitaine Willard, joué par Martin Sheen, envoyé par l'armée pour mettre fin définitivement à ses exactions. D'une durée de 2h30, le film entraîne le spectateur le long du fleuve que remonte Willard. Tout le film, en dehors des scènes spectaculaires, notamment les vols d'hélicoptères, s'interroge sur la nature profonde de l'homme. Il obtient en 1979 la Palme d'Or au Festival de Cannes, ex aequo avec Le Tambour de Volker Schlöndorff, et ressort une version longue de 3h30 en 2001, sous le titre Apocalypse Now Redux.
Le Festival de Berlin. Quittons maintenant la croisette et son doux climat pour nous rendre beaucoup plus au nord de l'Europe, à Berlin. Le Festival de Berlin est créé en 1951, après la séparation de l'Allemagne en deux États, la République fédérale d'Allemagne, la RFA, à l'ouest, et la République démocratique allemande, la RDA, à l'est. Berlin-Est est alors la capitale de la RDA communiste. Les alliés qui occupent Berlin-Ouest par secteur fondent ce festival afin d'en faire une vitrine du monde libre. La première édition fit son ouverture avec Rebecca d'Alfred Hitchcock en 1951. Compétition internationale, le Festival de Berlin décerne l'Ours d'or au meilleur film et des Ours d'argent à la meilleure réalisation, au meilleur acteur, à la meilleure actrice. Il se déroule en février. Le premier film allemand récompensé fut « Les rats » de Robert Siodmak en 1955. Citons ensuite pêle-mêle « Les fraises sauvages » d'Ingmar Bergman en 1958, « La nuit » de Michelangelo Antonioni en 1961, « Les contes de Canterbury » de Pier Paolo Pasolini en 1972, « Rain Man » de Barry Levinson en 1989, « L'appât » de Bertrand Tavernier en 1995, « Larry Flint » de Miloš Forman en 1997, « La ligne rouge » de Terence Malick en 1999, « Intimité » de Patrice Chéreau en 2001, « Le voyage de Chihiro » de Hayao Miyazaki en 2002, Garbavica de Yasmila Zbanic en 2006, puis en 2007 Le mariage de Tuya du chinois Wang Kan-han. Autant de films au grand impact et de réalisateurs à la forte personnalité. En 2008, l'Ours d'or récompense Troupe d'élite du brésilien José Padilla et en 2009 Fausta de Claudia Llosa, réalisatrice péruvienne.
Le saviez-vous ? En famille. Figure emblématique du cinéma américain indépendant, John Cassavetes débute au cinéma en tant qu'acteur en 1951. De 1959 à 1960, il est le héros de la série TV Staccato. À partir de là, il fait ses débuts dans la mise en scène en 1961, puis devient producteur, monteur et scénariste de ses propres films. Il continue de jouer dans des films marquants, comme par exemple Rosemary's Baby, en 1968, de Roman Polanski. Dans les années 1970, il réalise ses meilleurs films. Husbands, en 1970, Une femme sous influence, en 1974, ou Mickey et Nikki, en 1976. Parallèlement, il tourne dans des films commerciaux, ce qui lui permet de financer ses films. C'est en 1984 qu'il réalise Love Streams. Celle qui fut, tout au long de sa vie, sa compagne à la ville et à l'écran, Gina Rowlands, y interprète le rôle d'une femme en instance de divorce qui rend visite à son frère, auteur désabusé et alcoolique, et tente de mettre de l'ordre dans leur vie. Outre John Cassavetes lui-même, on retrouve également dans la distribution son vieux complice, Seymour Cassel, né en 1935, à la fois un acteur fétiche et un fidèle ami. Le film est couronné par l'Ours d'or à Berlin en 1984. 5 ans plus tard, John Cassavetes décède d'une cirrhose du foie, le 3 février 1989 à Los Angeles.
La Mostra de Venise. Partons maintenant pour l'Italie. La Mostra de Venise est l'une des sections, celle en charge du cinéma, d'une manifestation beaucoup plus large, la Biennale de Venise, consacrée à la promotion et au développement de l'art contemporain. Si la Biennale existe depuis 1897, il faut attendre 1932 pour que le cinéma y conquière sa place avec la Mostra. Festival international, la Mostra de Venise décerne comme récompense la plus haute, le Lion d'or de Saint-Marc, au début du mois de septembre. Parmi un très grand nombre d'œuvres de qualité qui ne sont pas toujours très connues du grand public, citons « Jeux interdits » de René Clément en 1952, si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez au moins la musique. L'année dernière, à Marienbad d'Alain René en 1961, Sandra de Luchino Visconti en 1965, Santoine Ilois d'Agnès Varda en 1985, Le rayon vert d'Éric Rohmer en 1986, Au revoir les enfants de Louis Malle en 1987, The Magdalene Sisters de Peter Mulan en 2002, Brokeback Mountain d'Ang Lee en 2005 ou Sanxia Aoren du chinois Jia Zhangke en 2006. En 2007, le Lion d'or va au Taïwanais Ang Lee pour Désir Danger et en 2008 à The Wrestler de l'Américain Darren Aronofsky.
Le saviez-vous ? Question de point de vue. Le scénario de Rashomon est tiré d'une nouvelle de Akutogawa Ryunosuke. Le film est réalisé en 1950 par Akira Kurosawa. Inspiré des légendes japonaises, accordant une place fondamentale aux faits et gestes des esprits des morts, surtout lorsqu'ils ont été victimes d'un assassinat, Rashomon met en scène, à l'époque Heian, du 9e au 12e siècle, un crime. Mais l'originalité est de le montrer suivant quatre regards, quatre versions différentes, y compris ceux de l'assassin et de sa victime. Au-delà du fait décrit, un guerrier samouraï tué par un bandit, le propos du film est une incitation à réfléchir sur le vrai, le vraisemblable, et enfin la vérité. Aucune des versions fournies par les protagonistes n'est désignée comme vraie. Il appartient au spectateur de se forger une opinion et d'apprendre à relativiser ce qu'il voit ou croit voir. En 1951, Rashomon obtient le Lion d'or du film étranger du Festival de Venise.
Les Oscars. Enfin, dans ce palmarès des compétitions cinématographiques, et là, personne ne pourra faire semblant de ne pas connaître, les Oscars d'Hollywood, appelés aussi Academy Awards. Ils ne sont pas remis dans le cadre d'un festival, mais au cours d'une cérémonie qui récompense depuis 1929 les plus grands professionnels du monde du cinéma, à ceci près que cela ne concerne que les productions sorties aux États-Unis. Les Oscars se répartissent en 25 catégories, meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur costume, meilleure photographie, meilleure musique de film, etc. La cérémonie se déroule au mois de janvier. La récompense, qui est une statuette plaquée or prénommée Oscar, doit son nom à Margaret Eric. Membre de l'Académie, elle le baptisa ainsi en raison de la ressemblance qu'elle lui trouvait avec son oncle. Ici, plus qu'ailleurs, il serait totalement vain de donner un échantillon objectivement représentatif du palmarès des Oscars. Citons seulement quelques films qui, dans l'histoire de la cérémonie, brillent par le nombre de récompenses raflées. 11 Oscars pour Ben-Hur de William Wyler en 1959, Titanic de James Cameron en 1997 et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi de Peter Jackson en 2002. 10 Oscars pour West Side Story de Jerome Robbins et Robert Wise en 1961. 9 Oscars pour Autant en emporte le vent de Victor Fleming en 1939. Gigi de Vincente Minnelli en 1958, Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci en 1987, Le Patient anglais de Anthony Minghella en 1996. Vous aurez remarqué que la plupart de ces films sont américains ou britanniques et que c'est une constante des Oscars. Notons tout de même qu'en 2006, La Marche de l'Empereur du français Luc Jacquet a reçu l'Oscar du meilleur film documentaire. En 2007, c'est Le Sacre de Martin Scorsese, Oscar du meilleur film et Oscar du meilleur réalisateur pour Les Infiltrés. En 2008, les frères Ethan et Joel Coen sont récompensés par l'Oscar du meilleur film pour No Country for Old Men et celui du meilleur réalisateur. En 2011, c'est le réalisateur français Michel Hazanavicius qui remporte l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur acteur pour The Artist.
N'oubliez pas, 9 Oscars ? Franchement, ma chère. Autant en emporte le vent fut réalisé en 1939 par Victor Fleming. Film en couleur d'après le roman de Margaret Mitchell, sa durée est de 4 heures. C'est une fresque gigantesque. Sur fond de guerre de sécession américaine. L'histoire centrale est une histoire d'amour, de souffrance, de mort entre Scarlett O'Hara, riche héritière de la plantation Tara, et l'aventurier séducteur Rhett Butler, respectivement incarné par Vivian Leigh et Clark Gable. Le succès fut immense et immédiat. Outre le score étonnant de 9 Oscars reçus, le film laisse, selon l'American Film Institute, la réplique la plus célèbre de l'histoire du cinéma, prononcée par Butler. Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.